les yeux et déclassifie les documents du coup d'État du Chili en 1973. 4 septembre 2023, par Rodel Casimir. Le souvenir du coup d'État qui a entraîné la mort du président chilien, leader de gauche Salvador Allende, reste vivace dans les mémoires des libertés. Les États-Unis ont instauré pour des années le régime militaire connu pour sa brutalité de droite, qui a été dirigé d'une main de fer par le général Augusto Pinochet. L'image idyllique de ce qui était une jeune démocratie prometteuse devint un militarisé calvaire de tortures et de sévices. Cinquantenaire d'un assassinat politique, 11 septembre 1973, de la CIA en Amérique latine. À terme, la pression internationale et l'utilisation concertée des lois américaines sur la déclassification des documents des services secrets comme la CIA forceront à la transparence. Pourtant, rien ne change substantiellement l'histoire passée, les conduites présentes et celles de l'avenir. À la révélation des chapitres sombres de l'histoire politique agressive, maintes fois à l'origine des pires éliminations de personnes et même de communautés, y compris noires et amérindiennes, l'impunité demeure. À la veille du cinquantenaire du coup d'État du 11 septembre 1973, qui a coûté la vie au président Salvador Allende, les archives de cette affaire qui est l'une des plus marquantes de l'histoire contemporaine de l'humanité, viennent d'être rendues publiques. Certes l'occasion est propice, mais la réalité reste. Ainsi que les mêmes complots passent maintenant avec des contrats avec des entreprises privées. Note aux médias, le gouvernement américain déclassifie les notes quotidiennes du président relatives au Chili du 8 septembre 1973 et du 11 septembre 1973. D'emblée, nous indiquons qu'il y a une spécificité historique de cette région du monde. L'époque la plus difficile et tortueuse d'Amérique latine est celle qui débuta avec ce fait. Des pays ont lentement évolué vers des démocraties plus progressistes, ce qui dérangea les États-Unis. Avant d'entamer et atteindre la dynamique politique qui a continué à changer, avec le retour de la droite et des autoritaires dans certains pays. Uruguay, Pepe Mujica, président et prolétaire. Sur les excès de la CIA et d'autres organismes de renseignement, nous avons plusieurs articles. L'un d'eux semble vraiment déranger l'agence américaine, au point qu'un réseau social renommé empêche le partage que nous faisons. L'émergence du militantisme en faveur des droits de l'homme qui a placé les abus sous les projecteurs et au centre de certaines politiques américaines, aide aussi. Un des documents d'information qui était secret et destiné au secrétaire d'État américain, après le coup d'État du 11 septembre 1973, rapportait que dans les 19 jours qui ont suivi la chute d'Allende, la nouvelle junte militaire avait sommairement exécuté 320 personnes, soit trois fois plus de personnes qu'on l'avait alors publiquement reconnu. En quelques années, après le coup contre Allende, l'Argentine voisine est également tombée sous une dictature militaire brutale. Sans freiner le cycle enclenché par la puissance de la CIA, qui a poursuivi ses frappes d'autres pays. La Bolivie et le Paraguay ont emboîté le pas vers une même série de destructions militarisées, toutes conduites par l'officine des services secrets américains. Les publics qui sont avides de connaître plus, resteront sur leur soif. Ils n'accèdent qu'à une partie, certainement la moins nocive, à la criarde diplomatie criminelle des States. Les documents révèlent une quantité considérable de détails que Nixon savait, tout en suivant les étapes menant au coup d'État. Un élément contient l'information du jour du coup d'État était fixé. Et deuxième document raconte le briefing de Nixon deux jours avant la prise de pouvoir militaire. Les horreurs scientifiques de la CIA, même Frankenstein n'avait pas tant imaginé. Afin de limiter les effets, la divulgation se limite à ce qui concerne les notes d'information du président Nixon de l'époque, pour uniquement le jour du coup d'État. Celles marquées comme top secret n'ont aucune chance d'être connues. Une plus grande partie des archives encore enfouies dans le domaine public peuvent certainement fournir des preuves pour une future responsabilité judiciaire et historique. Les manœuvres américaines pour bloquer la gauche au Chili ont commencé dans les années 1960 et 1970, avec la liquidation physique de ce qui est communiste et de gauche. Elles ont pris des dimensions mondiales, sous Nixon et Kissinger, avec le même objectif de dégradation constante des institutions des pays jugés hostiles et des démocraties plus sociales que libérales. L'ampleur du rôle de la CIA et d'autres acteurs américains, notamment les alliés occidentaux, dans le coup d'État au Chili a longtemps été débattue. Même si l'on ne pensait pas que l'administration Nixon ait joué un rôle direct dans l'exécution physique d'un président élu. Le cas du Chili correspond au modèle des nombreux soi-disant changements de régime que les États-Unis avaient clandestinement organisés au fil des décennies en Amérique latine, en Iran et au-delà. L'image idyllique de ce qui était une jeune démocratie prometteuse devint un militarisé calvaire de tortures et de sévices. Le souvenir du coup d'État qui a entraîné la mort du président chilien, leader de gauche Salvador Allende, reste vivace dans les mémoires des libertés. Les États-Unis ont instauré pour des années le régime militaire connu pour sa brutalité de droite, qui a été dirigé d'une main de fer par le général Augusto Pinochet. Une Bolivie sous Evo Morales, un modèle pour le FMI. Description du profil du président Salvador Allende par la CIA. Original du document. Contexte des audiences chiliennes. Un Salvador Allende n'est pas un révolutionnaire ordinaire. Il est l'un des rares marxistes latino-américains à savoir utiliser un système démocratique contre lui-même. Assez tôt dans le sien. Au cours de sa carrière, il a été l'un des fondateurs du Parti Socialiste Chilien et, dans les années 1930, il est devenu un très jeune ministre du premier gouvernement de Front Populaire d'Amérique Latine. Bien que médecin de formation, sa vie a été consacrée à la pratique de la politique. Aujourd'hui, il est reconnu comme l'un des hommes politiques et parlementaires les plus avisés d'une nation dont le passe-temps favori est la politique du casse-classe. De Allende se considère comme l'homme qui fera ce que Castro a fait. Jusqu'à présent, j'ai échoué dans l'ONG, déplacer les Américains en Amérique latine. Allende pense avoir trouvé une solution meilleure, plus subtile et plus acceptable pour le Chili et d'autres pays d'Amérique latine que l'exportation de la révolution par Castro. Et c'est peut-être le cas si cela réussit au Chili. Sa tactique consiste à utiliser des outils constitutionnels pour façonner une révolution socialiste irréversible. Mais pendant que lui est fidèle, Castro a peut-être choisi de suivre des voies disparates dans la poursuite de ses révolutions, il ne fait aucun doute qu'ils ont un objectif commun. Comme l'a dit Allende lors de sa campagne présidentielle de 1910, Cuba au Chili et un Chili socialiste dans le cône sud feront la révolution en Amérique latine. Curieusement, les collaborateurs les plus proches d'Allende ne sont pas les dirigeants de son propre parti socialiste mais ceux du parti communiste dominé par Moscou. Et cela parce que le parti communiste chilien est plus discipliné, unifié, capable et disposé à se conformer aux souhaits d'Allende, JZWT, que son propre parti socialiste. En conséquence, le Parti communiste dirige le volet économique du gouvernement d'Allende tout en exerçant discrètement une forte influence sur le volet politique par des portes dérobées et des conseils internes. L'objectif du Parti communiste, en termes simples, est d'assurer le succès d'Allende en tant que président tout en profitant de ses 6 années de mandat pour se hisser dans une position de force et d'influence. Le Parti communiste s'estime alors en mesure de le faire. Choisir un successeur plus orthodoxe à Allende. En bref, qu'Allende le reconnaisse ou non, il est utilisé comme cheval de Troie par le Parti communiste et, à leur tour, par les soviétiques. 4. Allende compte largement sur la compréhension et l'assistance cubaine. Politique mise à part, c'est un ami assez proche de Fidel Castro. Cette relation a été cimentée quelque peu récemment par le mariage d'une de ses filles avec un officier supérieur de la DGI, le service de renseignement cubain. Cet officier de la DGI est bien sûr désormais affecté au Chili. Depuis l'investiture d'Allende, le PERCC officiel cubain a gardé au DFRCN 0 à 54 personnes. Près d'un tiers de ces responsables cubains appartiennent au service de renseignement cubain et à ce qu'on appelle la direction de libération. Cette dernière organisation rencontre directement à Castro et est chargée par lui de la responsabilité d'exporter la révolution. Plus loin, depuis qu'Allende est arrivé au pouvoir, Santiago a commencé à rivaliser avec La Havane en tant que mecque latino-américaine de l'extrême gauche, en particulier des exilés. Les Cubains du Chili, d'ailleurs, ont été libres d'organiser de faux papiers et le transport d'un grand nombre de ces révolutionnaires vers Cuba pour une formation et un endoctrinement spéciaux. Allende sait que cela se passe tout ce qu'il demande, sait que cela se passe en silence. Ainsi, malgré les démentis publics au bénéfice de ses voisins latino-américains, Allende fournit un refuge aux révolutionnaires latino-américains et une base continentale sécurisée pour les opérations cubaines. 5. Jusqu'à présent, les soviétiques ont laissé aux Cubains la plus grande partie du sale boulot révolutionnaire effectué au Chili avec d'autres latino-américains. Ils se sont attaqués aux problèmes consistant à tenter de soutenir l'économie chilienne en déclin. Au cours de l'année écoulée, des crédits du bloc soviétique d'un montant de 20 millions de dollars ont été accordés à Allende. Bien entendu, cela n'inclut pas le crédit de 65 millions de dollars récemment accordé à Allende par le régime communiste chinois. Mais, sur un plan plus politique, l'Union soviétique fait maintenant miroiter une offre de 300 millions de dollars à l'armée chilienne pour l'achat d'équipements militaires. Cela place l'armée chilienne dans une position très difficile. Les militaires sentent qu'ils ont besoin de ce type d'aide militaire, mais ils veulent absolument éviter de devenir dépendants des soviétiques. D'un autre côté, Allende considère naturellement que cela est très souhaitable puisqu'en fin de compte, il pourrait probablement utiliser l'assistance militaire soviétique comme levier pour désamorcer la menace politique latente représentée par l'armée chilienne. Jusqu'à présent, les militaires ont résisté à toutes les flèches soviétiques ainsi qu'aux fortes pressions d'Allende sur cette question. Leur seule concession a été d'accepter une invitation à une mission militaire chilienne de haut niveau pour se rendre en Union des Républiques Socialistes Soviétiques en juin 1972, date à laquelle ils seront sans aucun doute soumis à de nombreuses pressions et incitations pour profiter de l'offre soviétique. La question clé est cependant de savoir dans quelle mesure Allende a réussi jusqu'à présent. On peut dire à juste titre que la réaction de la plupart des non-communistes à l'élection d'Allende en novembre 1970 fut proche de la panique. Une fuite des capitaux et des personnes les plus riches du Chili s'ensuivit presque immédiatement. L'opposition politique à son égard était dégonflée, craintive et désorganisée. En fait, nombreux sont ceux qui ont commencé à envisager, voire à rechercher activement, un compromis avec le nouveau gouvernement. De plus, la tradition politique chilienne insiste sur le fait que les 100 premiers jours d'une administration appartiennent au nouveau président. Et, même s'il n'est pas inviolable, le bon goût dicte que cela ne devrait au moins pas s'appliquer à PIDS, Cabiriti, T.E. pendant cette période. 39-1975. C'est le premier événement politique prévu d'une quelconque importance devait être les élections municipales nationales d'avril 1971, environ 6 mois après l'investiture d'Allende. Peu à peu, les 3 principaux partis d'opposition ont commencé à se concentrer sur cet événement. 8. Les élections municipales ont marqué un tournant. Point important pour l'opposition, elle a réussi à diviser presque le vote populaire avec Allende malgré tous les avantages dont ils bénéficiaient. Cela leur a redonné une certaine confiance en eux-mêmes et leur capacité à défier Allende. 9. Après cela, l'opposition politique à Allende a commencé à prendre de l'ampleur. En juillet 1971 et janvier 1972, des élections partielles au Congrès ont eu lieu pour pourvoir un total de 3 sièges vacants. Allende a investi des ressources politiques et matérielles considérables dans chaque élection, définissant même la question centrale comme étant un vote de confiance dans son gouvernement et dans sa conduite des affaires. Les partis d'opposition l'étaient. Victorieux dans tous les cas, même si aucun n'a eu lieu en 3-95-7-S. 10. Aujourd'hui, l'opposition défie Allende sur divers fronts et Allende a clairement perdu une grande partie de l'initiative politique dont il bénéficiait auparavant. En outre, l'opposition a désormais l'avantage supplémentaire de connaître la réaction du public face aux difficultés économiques désagréables dans lesquelles se trouve le Chili en raison de la politique d'Allende. Les pénuries de consommation et l'inflation ont été particulièrement exaspérantes. Nous avons noté qu'au cours des deux derniers mois, les propres partisans d'Allende ont commencé à s'inquiéter de sa position affaiblie. Castro lui-même a admis en privé que le pronostic était si mauvais qu'Allende pourrait bien ne pas être en mesure de survivre au pouvoir.